RFI vous présente Afrique Press.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous et joyeux Noël à nos auditeurs qui célèbrent les fêtes de la Nativité, grande fête chrétienne. Cette édition n'est diffusée que sur RFI, le retour avec les équipes de TV5 Monde. Ce sera après les fêtes de fin d'année. Avec moi ici en studio, Pascal Hérault du Bonjour. Quotidien L'Opinion, Louis Kemayou du Club de la Presse Africaine, et puis Albert Bourgi, juriste, spécialiste de politique africaine, observateur attentif de l'actualité africaine. Nous allons revenir, messieurs, sur l'Afrique du Sud, où l'ancien leader syndicaliste Cyril Ramaphosa devient enfin le numéro 1 de l'ANC, le Congrès National Africain, avant de succéder peut-être au plus tard en 2019 à Jacob Zuma à la tête du pays. Et puis la CEDEAO qui préserve en quelque sorte la légitimité de Faure Gnassingbé, le président du Togo, confronté, comme on le sait, depuis août dernier à une fronde de l'opposition. À 65 ans, l'ancien leader syndicaliste Cyril Ramaphosa, donc en Afrique du Sud, est enfin à la tête du Congrès national africain, l'ANC, Pascal, et c'est à l'issue de cette conférence nationale, autrement dit du dernier congrès du parti au pouvoir en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa a devancé sa concurrente, l'ancienne ministre et ex-épouse de Jacob Zuma, Madame Dlamini Zuma, de 179 voix à l'issue du vote des délégués. En vérité, Cyril Ramaphosa était programmé pour succéder à Nelson Mandela, mais ce sera Thabo Mbeki, l'ancien leader syndicaliste, va mettre à profit cet échec en passant de l'autre côté, en somme, du miroir du capitalisme, en devenant un homme d'affaires prospère. Et puis Pascal, donc le voilà, le voici enfin, chef de l'ANC, en attendant peut-être d'être le chef de l'État sud-africain en 2019, si l'ANC remportait les législatives. On revient d'abord sur ce parcours, somme toute exceptionnel, de Cyril Ramaphosa, Pascal.
Oui, c'est l'aboutissement d'un vieux rêve de l'enfant de Soweto, qui a un parcours syndical, militant, qui a dirigé la constituante, il faut le rappeler à l'époque, qui pensait à partir de 96 se placer dans l'optique de la succession. Hélas non, il a été écarté à l'époque par les poids lourds du parti, il est retourné aux affaires, il a fait fructifier un grand groupe, il a profiter de la période de Nelson Mandela et de la discrimination économique positive pour monter un groupe. Il s'est allié à des géants de l'économie mondiale, notamment comme McDonald's, Coca-Cola, pour monter ses affaires. Il a réussi et il est revenu en politique. Alors le pari n'était pas aisé, d'autant qu'il a affronté l'ex-femme de Jacob Zuma. On sait très bien les dérives qu'ont connues l'ANC, et notamment à partir de la bataille entre Mbeki et Zuma, enregistrement d'énormément de délégués, notamment dans la province du KwaZulu-Natal. C'est pour ça qu'à l'époque, Jacob Zuma a obtenu le parti.
Oui, c'est son fief.
On a beaucoup perdu de l'essence du combat originel mené par Nelson Mandela. Moi, je vais vous dire très franchement, j'ai parié avec un ami ivoirien, j'ai été persuadé qu'il allait perdre cette élection, parce que la machine électorale telle qu'elle avait été conçue par Jacob Zuma était une machine à son profit, avec énormément de délégués. Et la clé de la victoire, il l'a obtenue parce qu'il a réussi à faire révoquer près de 500 délégués.
Voilà. Alors Cyril Ramaphosa a promis, Louis, de restituer à l'ANC son unité, de lutter contre la corruption qui gangrène le parti. En clair, il veut remédier à l'héritage empoisonné, on peut utiliser ce terme, que lui laisse en somme Jacob Zuma.
Il faut faire le ménage dans les écuries d'OGS concernant l'ANC, parce que ça commence à peser vraiment. Ce n'est pas très sensible quand il s'agit des élections, parce que pour le moment, il y a encore une certaine résilience qui permet à l'ANC de, à la fois d'être le parti historique qui a permis à l'Afrique du Sud de devenir cette nation arc-en-ciel qu'elle brandit partout, et surtout de gagner les élections. Donc pour le moment ça tient encore, mais combien de temps ça pourra continuer de tenir? Il faudrait véritablement que l'ANC fasse sa mue. Quand on a en face
alors est-ce que Cyril Ramaphosa a la capacité de réparer l'ANC après donc le règne très très discutable de Jacob Zuma, qui par ailleurs traîne on le sait, plus de 700 chefs d'inculpation, dont notamment des soupçons de corruption?
Pour le moment, il n'a pas toutes les coudées franches pour cela, parce que au-delà de l'élection du président du parti, il y a quand même l'élection de tout le reste du bureau qui ne lui est pas acquis. Il y a des personnes qui soutenaient Dlamini Zuma et qui aujourd'hui se retrouvent à ses côtés comme dirigeants, élus avec la même légitimité que lui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas les révoquer comme ça sur un coup de tête. Donc, Ce qu'il doit faire, c'est remettre un peu de morale, remettre un peu de justice et surtout réconcilier le parti avec ceux qui l'ont quitté, notamment les jeunes qui sont partis et qui aujourd'hui ont monté un parti économique pour expliquer qu'on doit rendre justice et faire que la discrimination positive qui a par exemple profité à Ramaphosa profite à la base également, parce que ce n'est que l'élite de l'ANC qui a profité de cette discrimination positive.
Alors avant de céder la parole à Albert Bourget, un mot Pascal, est-ce que Cyril Ramaphosa aura les coudées franches éventuellement pour faire le ménage, c'est-à-dire pour virer finalement de la direction de l'ANC et des institutions les partisans du populiste Jacob Zuma?
Alors, il a arraché vraiment de haute lutte la présidence du parti. Le parti est extrêmement divisé. On l'a vu dans la bataille au dernier congrès qui s'est tenu. Un certain nombre de partisans de Jacob Zuma et de Madame Dlamini Zuma, notamment Assé Magashule, le nouveau secrétaire général, sont contre lui. Mais il y a une dynamique en cours. C'est lui le grand vainqueur. Tout le monde a intérêt, si l'ANC veut garder le pouvoir lors des prochaines élections présidentielles, à rouler pour lui. L'opposition est revigorée par les derniers scrutins. Les dernières élections Pretoria, Port-Elisabeth
municipales
ont été perdues. Donc je pense qu'il va réussir à rallier tout le monde. Et puis, lâcher Jacob Zuma, c'est aussi, pour une partie des Sud-Africains, quelque chose qui pourrait lui permettre d'être assez populaire. Vous l'avez rappelé, il y a un certain nombre d'affaires de corruption. Corruption sur la construction d'une maison avec des deniers publics. L'affaire Gupta aussi, des affaires de favoritisme. Je pense qu'il va, s'il manœuvre assez intelligemment, il va réussir à créer une dynamique qui va permettre à l'ANC de se présenter encore dans une position très favorable lors du prochain scrutin.
Voilà, Pascal Hérault, je me tourne vers vous, Albert Bourget. Hein, lors de ce congrès de l'ANC, en fin de semaine dernière, Jacob Zuma n'a reconnu aucune part de responsabilité dans cette déconfiture, hein, on peut le dire, de l'ANC. Donc, lors des dernières municipales, les grandes villes ont été perdues par le parti. Alors, est-ce que finalement, l'héritage empoisonné de Jacob Zuma, ce n'est pas non plus le dernier clou sur le cercueil de Mandela, c'est-à-dire le solde aussi de l'héritage de Mandela?
Moi, je ne crois pas que ce soit le solde de l'héritage de Mandela. Il ne faut jamais oublier que Cyril Ramaphosa était déjà candidat.
Non, mais en parlant de l'héritage, le tournant Jacob Zuma.
Non, je veux dire que déjà, il s'inscrivait dans la lignée de bien sûr, du leader historique. Donc, il avait une certaine légitimité. C'est vrai que Jacob Zuma, parce qu'il a su manœuvrer les fameuses instances locales, en particulier du parti, pour pouvoir arriver à ce qu'il est arrivé. Et au fond, c'était pas le choix. S'il y avait eu un véritable référendum à ce moment-là, Jacob Zuma n'aurait jamais été désigné comme le président, précisément, de cette Afrique du Sud. Donc, je crois que Cyril Ramaphosa a cette fois-ci les coudées franches parce que justement il doit pouvoir profiter politiquement de l'échec patent en tout cas de Zuma, mais au-delà de ça aussi de la crise économique et sociale, et sans doute Cyril Ramaphosa est plus indiqué pour pouvoir refaire marcher la machine économique du pays. Pas oublier quand même. Et puis les milieux d'affaires, on est en Afrique du Sud, un grand pays, certes, politiquement parlant, idéologiquement parlant, on en connaît la ligne, mais c'est une ligne qui est extrêmement flexible à partir du moment où on parle d'économie. Donc Cyril Ramaphosa a l'avantage à la fois d'avoir la première casquette, celle, bien sûr, de l'ANC, et personne ne peut lui recuser cela, absolument, et puis d'être proche, en tout cas, ou d'être
des milieux d'affaires.
Mieux informé, en tout cas, de ce qui se passe dans ces fameux milieux d'affaires qui jouent un rôle important.
Absolument.
Extrêmement important en Afrique du Sud. On l'a vu notamment lorsqu'il y a eu des grèves. Et en particulier, le patronat, à ce moment-là, avait joué contre même les mouvements de grève et contre les organisations syndicales.
Absolument. Et d'ailleurs, l'une des casseroles de Cyril Ramaphosa, on le rend responsable du massacre de ces mineurs en grève, Pascal.
Oui, de Maracana.
De Maracana.
À l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il arrivera à réconcilier la minorité noire qui n'a pas trouvé sa place dans le monde économique. D'ailleurs, c'est une de ses promesses lors de ses élections.
La justice sociale.
Tout en rassurant les milieux d'affaires. Vous avez bien vu que les marchés avaient parié sur sa victoire. Le rand avait pris
des
couleurs. Après, il y a des enjeux économiques importants. Il y a un chômage de 30% en Afrique du Sud actuellement. Et toute la difficulté va être de cohabiter jusqu'en 2019 avec Jacob Zuma. Alors, est-ce qu'il va se passer un scénario à la 2008, quand on avait contraint Thabo Mbeki de démissionner par une motion de défiance? Il va falloir observer ce qui va se passer dans les prochains mois.
Ce qui va se passer pendant ce laps de temps. Un dernier mot, Louis, cet ANC divisé, donc peut-être que Ramaphosa va parvenir à recoller les morceaux.
J'espère, parce que la base quand même de l'ANC, ce qui a beaucoup fait la différence lors des dernières élections, c'était deux bases, c'était à la fois le Parti communiste et puis les syndicats. S'il arrive aujourd'hui à faire ce grand écart entre ces bases historiques de l'ANC et la nouvelle Afrique du Sud, qui est aussi celle du capitalisme, absolument, de l'introduction dans l'économie de marché, telle que nous la connaissons, peut-être que ça marchera, mais c'est un grand écart très compliqué et il faudra surtout pas se louper.
Un dernier mot, Albert Bourget.
Oui, moi je crois que Cyril Ramaphosa est indiqué pour pouvoir remettre ce grand pays sur les rails. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est pas n'importe quel pays, c'est le pays de Mandela, sans aucun doute, historiquement, idéologiquement.
C'est un poids économique.
Un poids économique considérable, et qui peut peser, justement, sur la scène internationale, sur la scène diplomatique, où l'Afrique pêche. Il suffit simplement, par exemple, d'observer le déroulement des travaux au niveau donc unitaire à l'Union africaine, pour se rendre compte que la voix de l'Afrique du Sud est beaucoup moins audible, absolument, que beaucoup d'autres pays membres précisément de l'organisation.
Voilà, à mettre là aussi au bilan de Jacob Zuma. RFI, la suite d'Afrique Presse, avec cette crise politique au Togo, examinée en fin de semaine dernière par les dirigeants ouest-africains réunis en sommet à Abuja, le 52e sommet du genre de la CEDEAO. Alors, depuis août dernier, Louis, l'opposition togolaise manifeste régulièrement à travers le Togo et bien sûr à Lomé, la capitale, et c'est pour réclamer à la fois la limite des mandats présidentiels à deux, et puis surtout pour s'opposer à une nouvelle candidature de Faure Gnassingbé en 2020. À ce stade, la CEDEAO estime finalement que l'on est face à une crise intérieure, pour ainsi dire mineure, et donc la CEDEAO a exclu à ce stade une médiation sur ce dossier.
Visiblement, le Togo n'est ni la Gambie ni le Burkina Faso, donc le traitement n'est pas le même, les mêmes causes ne produisant pas les mêmes effets. Il y a quand même le président de la CEDEAO qui a été remplacé par
Le président de la commission.
Oui, de la commission de la CEDEAO, qui a été remplacé par
un ministre ivoirien, oui, Jean-Claude Brault.
Oui, et la position d'Alassane Ouattara sur cette crise est fidèle à celle de la plupart de ses pairs, qui estiment que les réclamations de l'opposition aujourd'hui, au stade actuel des choses, ne permettent pas une ingérence qui puisse faire changer la balance pencher la balance en faveur de l'opposition.
Voilà, donc Pascal, Faure Gnassingbé a encore des soutiens dans la sous-région, d'autres chefs d'État, donc il a aussi des soutiens extérieurs dans les milieux économiques, notamment en France. Finalement, il l'a d'ailleurs dit dans une interview, dans l'une de ses rares interviews depuis cette crise qui a commencé en août dernier au Togo, il a dit finalement qu'il n'exclut pas du tout de se représenter en 2020.
Il y a une conjoncture
dans une interview à Jeune Afrique.
Oui. Il y a une conjoncture des astres qui est assez favorable pour lui, effectivement. Il y a ce club de la CEDEAO, des chefs d'État qui le soutiennent. À part un ministre gambien, on n'a pas entendu une seule voix discordante dans le concert des gens qui l'appuient. D'ailleurs, le communiqué de la CEDEAO à l'issue de ce sommet est assez tiède. On appelle au calme, à la retenue, et on demande à l'opposition d'aller au dialogue.
Voilà.
Bien sûr, ça ne satisfait pas les populations. Il y a un ras-le-bol par rapport à ce pouvoir d'un demi-siècle
la famille Gnassingbé.
D'une bonne famille. On vient de ce dernier sommet de la CEDEAO et aussi comme un acte est vécu comme un acte récusatoire de la médiation du Ghanéen Akufo-Addo.
Oui.
Le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, l'a dit, c'est un dialogue inter-togolais qui doit se tenir, dialogue inter-togolais aux conditions du pouvoir.
Voilà. Albert Bourgi, alors est-ce que cette fronde finalement de l'opposition ne souffre pas, un, d'un manque d'appui à l'échelon sous-régional, deux, ne souffre pas des appuis au contraire dont bénéficie Faure Gnassingbé, notamment dans les milieux économiques des investisseurs français, citons Bolloré par exemple, et puis peut-être cette opposition souffre aussi d'une guerre d'ego entre à la fois l'opposant historique, si l'on peut dire, Jean-Pierre Fabre, et puis le jeune Tikpi Achadam, le leader de cette fronde contre Fornia Simbé.
Oui. Tout d'abord, je voudrais quand même...
Les handicaps.
J'ai entendu mes amis en face parlant de la CDAO qui a dit qu'au fond, il appartenait pas donc finalement aux Togolais de descendre dans la rue, de manifester. Mais c'est pas à la CDAO.
Non, c'est pas ce que la CDAO a dit.
Non, le club de la CDAO...
La CDAO, disons, minimise la crise.
Non, minimise la crise et conforte purement et simplement Yadema, Fornia Simbé.
C'est
une réalité. Mais je vois pas très bien comment en politique, une organisation, quel pouvoir a-t-elle, quelle prérogative a-t-elle pour décider finalement du sort politique d'un État membre. C'est extraordinaire, c'est au Togolais de décider. Qu'ensuite, on voit de quelle manière les modalités, notamment du changement, peuvent intervenir, mais on décide pas, on dit pas. Moi, j'ai entendu également un responsable de la CDAO à Dakar à une conférence qui me dit, mais enfin, c'est incroyable. Il est très bien, Fornia Simbé, il y a des mois. J'ai pas voulu lui répondre, mais lui, il parle en apparatchik d'une organisation internationale. C'est ce qui tue nos organisations. La CDAO n'est plus crédible. Lorsqu'elle a envoyé pendant des années des missions d'observation des élections dans les pays, les gens rigolaient, les gens ricanaient. Donc, moi, je pense sincèrement, et là, je crois pas que vous-même, Hassan, bien évidemment, et nos amis en face puisse récuser cela. Il appartient d'abord aux Togolais. Qu'on puisse éventuellement prévoir une médiation pour éviter les violences, éviter peut-être également des difficultés sur le plan intérieur. Mais je ne vois pas en quoi la CDAO, ce club de présidents, peut décider à la place des Togolais.
Voilà, vous niez donc le droit à la CDAO de s'immiscer dans cette affaire. Il semble que quand même on avait réclamé sa médiation. Pascal, une réaction à ce que vient de dire Albert Bourget rapidement, et puis ensuite ce sera Louis.
Ce que les chefs d'État sont en train de faire, ils ne sont pas en train de comprendre le sens de l'histoire. On est en train de passer en Afrique de pouvoirs trentenaires à des pouvoirs qui vont de 10 à 15 ans. La CDAO en est le meilleur exemple. Pourquoi aller contre cela? Les prochains dangers, à mon avis, se trouvent dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a mis un président de la commission de la CDAO ivoirien. Il va y avoir des enjeux. Il y a des enjeux de troisième mandat dans un certain nombre de pays, comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, etc. Il faudra surveiller cela de très près. Et les pays anglophones de la CDAO, actuellement, sont en train de donner des leçons de démocratie aux pays francophones qui sont tentés d'agir par des moyens antidémocratiques pour rester au pouvoir.
Vous pensez à la Gambie. Un dernier mot, Louis, sur cette affaire.
Ce que l'on sous-estime peut-être dans cette crise, qui est une crise profonde, c'est le fait que même au sein de la famille Yadema, c'est pas l'unité totale. Mmh. Et au sein même du clan du Nord, qui est présenté comme un groupe très homogène, c'est pas le soutien total non plus. Donc, quelque part, l'opposition, si elle n'arrive pas à être entendue à l'extérieur, n'arrive pas non plus suffisamment à rallier autour d'elle
la société civile.
Voilà, des soutiens au sein de la société civile et notamment au sein de la famille et du clan du Nord.
Voilà, un dernier mot.
Oui, moi, ce que disent nos amis en face sont, bien sûr, ce qu'ils disent est fondé. Mais encore une fois, je pense quand même, Hassan, que on ne peut pas demander à une organisation ce qu'elle pense de la situation dans un pays. C'est aux citoyens eux-mêmes de décider de leur sort et éventuellement de protester. La liberté de manifester n'est pas quelque chose d'absolument répréhensible. À entendre un certain nombre de chefs d'État dont on ne sait pas du tout quelle est leur légitimité, qui donnent des leçons de démocratie à des Togolais qui se battent contre un pouvoir qui est en place depuis quasiment un demi-siècle. Mmh. Un demi-siècle. C'est pas Fornia Simbé sans doute qui est visé, mais c'est tout le système. C'est un système qui a été mis en place par le père Yadema et qui subsiste pour le grand drame d'ailleurs d'une grande partie des Togolais.
Donc pas de risque pour Fornia Simbé de perdre le pouvoir.
Pour moi, le risque, il est fort limité parce que sur le plan militaire, c'est de là que peut venir peut-être l'étincelle, mais je vois mal comment les militaires basculeraient pour soutenir un Tikpi Achadam ou un Jean-Pierre Favre, par exemple.
Oui, l'armée est fortement ethnicisée au Togo et pour le moment, il est aussi dans une configuration internationale où il y a d'autres priorités, donc il n'y a pas de grandes puissances, n'ont pas un regard prononcé sur le Togo pour favoriser un changement
de régime. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Afrique Presse sur RFI. Merci Albert Bourget, Pascal Hérault et Louis Magloire-Quemayou. À la technique, Julien Lingue. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur RFI, seulement autour de 5 faits marquants en 2017 en Afrique. Ce sera en compagnie des mêmes invités qu'aujourd'hui. Merci de votre fidélité à Afrique Presse. Et encore une fois, joyeux Noël.